Le moment à côté de la traque avec Martin Thomas Côté.
8h53, de l'autre côté de la traque ce matin.
Tu sais que j'aime parler de culture, bien, que j'aime parler de lecture et que depuis un an ou deux, je me suis donné comme mission de faire lire nos auditeurs puis de leur faire apprécier des genres comme la bande dessinée, par exemple, puis de donner des suggestions. Le vendredi, c'est souvent le moment où je vous fais des suggestions, je vous parle de livres,
qu'est-ce qu'on lit,
films,
qu'est-ce qu'on écoute en fin de semaine.
Télé, qu'est-ce qu'on écoute. Et notre prochaine invité, au début, il y a des gens qui me disaient « Ouais, tu sais, recevoir un auteur en onde, c'est toujours un peu touché parce que, tu sais, est-ce que les gens ont lu ses livres? Est-ce qu'ils vont se les procurer? Est-ce que c'est populaire? » La lecture, ça a ce côté, on dirait, là, « Ah, oh, c'est pas, le monde lise pas. » C'est pas vrai. Quand on regarde le grand baromètre des livres préférés des Québécois, il est en 4e, 7e, 10e et 13e position avec ses différents romans. Il est assurément l'un des plus lus au Québec.
Tout à fait. Et quand tu as 3 livres dans le top 10, c'est fort. Là.
C'est très, très fort. Et il va sortir son nouveau roman la semaine prochaine. En fait, j'ai eu l'occasion, moi, de le lire il y a de cela 2 semaines. Et on parle évidemment de l'auteur prolifique Patrick Sénécal qui est avec nous ce matin. Patrick, bon matin.
Bonjour tout le monde.
Hey, ça a été une grosse année pour toi, bande dessinée, télé, roman. T'as-tu trouvé un peu de temps pour toi là-dedans?
Ouais, ben je sais, le monde a l'impression que j'ai tout fait ça pendant la COVID, finalement, tu as travaillé comme un fou, mais faut dire qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui étaient commencées avant la COVID et qui sont arrivées pendant la COVID, là, comme la BD, c'était déjà enclenché, l'émission de télé aussi. Essentiellement, ce que j'ai fait pendant la COVID, c'est le roman, c'est mon nouveau roman, là, puis... Il y a la série qui a été mise en onde, mais c'est surtout sur mon roman que... Mais bon, ça fait beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Effectivement, on a l'impression que tout ça arrive en même temps. C'est un peu étrange. J'ai l'impression de me voir partout.
Mais on peut-tu penser pour les auteurs québécois, la COVID n'aura peut-être pas été une mauvaise chose parce que les gens n'auront jamais eu autant de temps pour lire?
C'est-à-dire que pour les maisons, oui. C'est vrai que on a vendu beaucoup de livres. C'est vrai que les maisons d'édition ont vendu beaucoup de livres. Mais comme d'habitude, c'est les auteurs surtout connus qui ont vendu, puis les moins connus, pas tant. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, tiens, pendant le temps qu'il est enfermé chez nous, je vais lire cet auteur-là dont on me parle, dont ma soeur ou mon frère me parle depuis 2 ans, puis j'ai jamais le temps de le lire, là, je vais le lire. Mais faudrait se tourner aussi vers des auteurs moins connus. Mais c'est vrai que ça n'a pas... Par contre, je connais beaucoup d'auteurs qui ont été paralysés pendant... qui n'ont pas écrit, comme bien des gens qui ont été paralysés par l'angoisse pendant la... Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment été très angoissés pendant cette pandémie-là. Puis certains auteurs, effectivement, même s'ils étaient chez eux à rien faire, n'ont pas été capables plus d'écrire, mettons, que d'autres ont par rapport à leur job. Fait que c'est. Il y a deux revers à cette médaille-là, là, comme toutes les médailles. Là. Oui, le monde a beaucoup acheté de livres. Oui, il y a des auteurs qui en ont profité pour écrire beaucoup. Mais il y en a qui ont comme paralysé leur imaginaire et qui ont eu beaucoup de difficultés à écrire. C'est pas mon cas. Moi, j'ai continué à écrire comme d'habitude. Ça ne m'a pas empêché d'écrire...
Mais justement, avant de parler de ton roman, là, évacuons tout de suite la question COVID. J'ai été quand même surpris de voir des référents, un contexte qui est quand même pas tant présent que ça, mais qui est là au fur et à mesure où je lis ton livre. Puis je me suis posé la question, ça a dû être un choix difficile à prendre. Est-ce que je fais référence à la crise qu'on est en train de vivre? Puis si oui, comment?
Oui, c'est ça. Je me suis beaucoup posé la question. Je te dirais que presque à la fin du roman, je faisais pas allusion à ça. Je me suis dit, je le fais-tu ou je le fais pas? Je le savais pas trop, puis je vais pas faire un roman sur la COVID. Mais je me suis dit, est-ce que de parler de la COVID peut aider mon roman? Puis je me suis rendu compte que finalement, ça pouvait aider de le mettre en toile de fond avec un de mes personnages, le père de famille. Je dirais pas comment, là, mais ça vient, c'est un gars un peu conspirationniste, un peu paranoïaque, fait que la montée de la COVID vient le rendre plus inquiétant, mettons. Fait que ça, je trouve ça intéressant.
Ça amène de l'angoisse, moi, je trouve, parce qu'au fur et à mesure, on sait ce qui s'en vient, puis on lit, puis on se dit, oh mon Dieu.
Oui, parce que le roman finit quand la COVID commence. Le roman finit quand il y a le premier shutdown au mois de mars de 2020. Fait qu'on fait juste sentir la montée, mais ça n'empêche pas mes personnages de faire ce qu'ils ont à faire. Je ne voulais pas que tout le monde soit confiné, sinon ça aurait été un roman un peu,
un peu plate. Quoique, on ne donnera pas de punch du roman, mais ça a été aussi un défi, j'imagine, d'écrire ce roman-là, parce que ce que tu as entrepris pour mettre les auditeurs dans le coup, c'est de nous l'écrire sous forme de journal, d'extrait du journal intime d'une petite fille. Et honnêtement, là, Ça doit vraiment être difficile de se limiter pour écrire, pour que ça ressemble le plus possible. Parce que, tu sais, j'ai déjà lu, moi, je pense que c'est Max Brook qui avait fait ça à un moment donné, écrire sous forme de journal intime. Oui. Puis à un moment donné, tu lis, puis tu te dis, tabarouette, il recopie même les conversations. Tu sais, à un moment donné, ça a plus l'air d'un journal, tu sais.
Non, c'est ça. Moi, je voulais que le plus possible que les gens pensent que c'est écrit par un enfant de 8 ans. Bon, évidemment, on a corrigé on fait comme ça ne ferait pas de faute. On écrit au début qu'on a corrigé toutes les fautes du journal. Mais je voulais que les mots, le ton, la syntaxe, tout ça soit comme un enfant de 8 ans. Puis là, le défi, c'est que ça ne soit pas ennuyant pour autant. Parce que, tu sais, il fallait que ça allait être écrit par un enfant, mais il ne fallait pas qu'on dise, oh mon Dieu, c'était plate. C'est plate, lire un texte écrit par une petite fille. Fait que, oui, c'était tout un défi, même si elle écrit pas très bien. Mal écrire, c'est pas si facile quand c'est volontaire. fallait que je fasse des répétitions. Oui, c'était un beau défi. Puis en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'elle ne réalise pas l'horreur qui se passe autour d'elle, les horreurs qui sont commises autour d'elle ou qu'elle commet elle-même. Alors, le contraste entre son innocence puis son espèce de côté enfantin et les horreurs qui se passent, moi, je pense que c'est ce contraste-là qui fait que le livre devient un peu malaisant puis inquiétant.
Ben, en fait,
c'était ça le plus gros défi.
En fait, oui, puis je trouve que tu choisis bien tes mots, malaisant et inquiétant, parce que là, on met en scène un enfant. Et t'as réussi à me faire peur des enfants, là. Honnêtement, j'ai été une semaine à regarder les amis de mes enfants puis à avoir peur. C'est touché, là, de prendre un enfant puis en faire un personnage épeuré.
Ben, c'est touché, surtout si on va en faire un personnage crédible. Parce que, tu sais, il y en a eu plein de films d'horreur, c'est des enfants maléfiques, là. L'enfant qui fait le mal sans raison, puis aussitôt qu'il a fait le mal, il y a une espèce de sourire diabolique. Ça, je trouve ça toujours bien niaiseux parce que. Pourquoi qu'il est maléfique d'un coup, là? Et moi, je lui ai montré la psychologie d'une enfant. Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle fasse le mal, mais sans vraiment s'en rendre compte? Fait que je pense que c'est bien plus inquiétant dans ce temps-là, quand on croit à la psychologie de cet enfant-là, quand on dit que ça pourrait être notre voisine, finalement, ou notre voisin,
on
que quand
pas,
c'est juste
là,
un enfant maléfique, genre Damien, là, qui est l'enfant du diable, là. Bon, c'est bien bon, Damien, là, dans la malédiction, là, mais c'est pas très crédible, mettons. Fait que moi, le côté crédible était bien.
Ouais. Mais là, tu disais que, évidemment, là, ta femme t'a aidé beaucoup là, pour la psychologie de la petite fille parce qu'elle est elle-même psychologue, ce qui ajoute donc à la crédibilité du personnage.
C'est ça. Oui, moi, elle m'a aidé. Elle m'a surtout fait remarquer qu'un enfant, il est toujours dans le moment présent à cet âge-là. Fait que dans mon journal, fallait pas toutes les places que la petite fille disait « Ouais, mais là, je vais être dans le trouble dans 2 semaines. Peut-être que la police va faire ci ou peut-être que je vais me retrouver toute seule. » Elle me disait, non, à 8 ans, tu penses pas à ça. À 8 ans, tu projettes pas comme ça. Tu penses à ce qui se passe maintenant. Fait que ça m'a aidé beaucoup parce que justement, ça la rend encore plus inquiétante parce qu'elle est incapable. Elle est incapable d'avoir une réflexion sur le futur, sauf vers la fin, une année où elle a pas le choix, là. Puis cette espèce d'impossibilité-là de se projeter dans le futur, ben, ça la rend plus inquiétante parce qu'on se rend compte à quel point qu'elle réalise pas. Fait que oui, ma blonde m'a particulièrement ce roman-là, m'a beaucoup aidé, tout à fait.
Mais tu sais, on vit dans une époque qui est particulière. Là, je passe mon temps à me reviser puis à savoir comment je vais le dire puis qu'est-ce que je vais dire. Puis j'imagine que quand on écrit, c'est la même chose. Y a-tu un moment où ce que. As-tu senti plus d'auto-censure qu'à une certaine époque? Tu sais, je t'entendais parler de Alice quand t'as fait la BD, de dire qu'il y a des choses que tu ferais pas pareil aujourd'hui. Puis là, je me disais en lisant le livre, je pouvais pas m'empêcher d'avoir des pensées de genre, l'association d'un tel va être sur son dos. L'association d'une affaire sera pas contente.
Moi, j'essaie d'être capable de justifier ce que j'écris moi-même. C'est sûr que j'écris. J'essaie d'évoluer moi-même avec mon temps, de réfléchir, de mettre, de pas rester juste dans la réalité d'un gars blanc, hétéro de 50 ans. Cette réflexion-là, je la trouve intéressante de mettre dans mon roman d'avant, j'avais mis un des personnages était homosexuel, alors que 10 ans, j'aurais peut-être pas pensé à mettre un gay dans mon roman, juste parce que je le suis pas puis je pense pas à ça. Fait que d'amener cette réflexion-là, faire au lieu de faire deux gars, faire un gars puis une fille, bon, c'est la petite fille d'ailleurs. Je suis sûr que le premier réflexe que j'aurais eu il y a 10 ans quand j'ai écrit ce roman-là, ça aurait été de faire un petit gars au lieu d'une petite fille. Puis je me suis dit, ah, ben pourquoi pas une petite fille? Ben, ça ferait changement. Fait que c'est correct d'avoir cette réflexion-là, mais pour ce qui est de est-ce que je suis trop violent, est-ce qu'il y a trop de est-ce que. Non, ça, moi, je veux pas tomber là-dedans. Je pense que le genre de roman que je fais est là pour déranger. Fait que si je me mets sage dans l'horreur ou dans la terreur ou dans le roman psychologique noir, si je me mets sage là-dedans à pas vouloir déranger le monde, ben là, je vais changer de style de livre. Parce que moi, ce que je veux, c'est déranger, justement. Mais l'important, c'est d'être capable d'assumer ce que je fais. Puis moi, je suis capable de. Tout ce qu'il y a dans ce moment-là, je suis capable de l'assumer. Puis de. Tu sais, il y a une scène, on va pas dire la scène, mais il y a une scène qui est assez touchée. Que je me dis, ah là, il y en a peut-être qui vont me dire, oh, c'est un peu élevé ton affaire. Mais non, je suis capable d'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Puis je veux pas tomber, je veux pas un jour m'empêcher d'écrire des scènes de même par peur. Si à un moment donné, j'arrive à ça, J'espère que je vais changer de métier avant.
Hey, as-tu été surpris? Ben, surpris. Moi, je ne l'étais pas, mais toi, as-tu été surpris de te retrouver dans le baromètre à près de 4 reprises dans les, oui, dans les romans les plus appréciés, oui, des Québécois? C'est une belle reconnaissance, ça.
Oui, oui. C'est très flatteur. Évidemment, faut penser qu'un grain de sel, l'article présentait ça comme les meilleurs romans québécois. C'est pas un concours de qualité, c'est un concours de popularité. Ce que ça montre, c'est que je suis beaucoup lu, puis les gens m'aiment beaucoup. Alors ça, je suis très, très, très content, je suis très flatté de ça, mais je serais bien naïf de croire que je suis aussi bon et aussi important que Gabriel Roy ou que Louis Aymon ou que certains grands écrivains qui sont là-dedans. C'est clair que non, mais de savoir que je suis autant lu, que je suis de ça, c'est pour un auteur, c'est la meilleure claque dans le dos qu'il peut avoir, c'est le meilleur encouragement. Surtout dans une année où que je vois pas de salon du livre, que je vois pas mes lecteurs, que je vois personne, ben d'avoir cette espèce de message-là à distance, comme si les gens à distance me disaient « On t'aime, Patrick, continue ». C'est un mot du bon timing, puis c'est bien encourageant pour continuer.
Moi, j'espère quand même qu'il y a plusieurs producteurs télé qui ont vu ça, ce baromètre-là, et qui se sont dit « Écoute, il y a beaucoup de bonnes histoires à transposer ». Qui serait télévisuellement excellente. Il y a de la popularité. Le monde aime ça. Pendant que la télé cherche, là, je sais que là, ça commence tranquillement.
Ça commence.
Est-ce que le téléphone sonne de plus en plus, mettons?
Ben, il y a eu beaucoup de projets. Tu sais, le projet de télé qu'on a eu, là, c'était pas la première fois là, que la télé m'approchait. Puis à chaque fois, c'est tombé à l'eau parce qu'il me disait, oh, c'est un peu trop élevé. Puis là, le dernier projet, la partie syndicale présente, quand on a commencé à le faire, j'ai dit, on va arrêter de niaiser. Là. Vous savez à qui vous faites affaire. Là. Vous n'allez pas me dire dans 2 mois que c'est trop élevé. Là. Vous savez où est-ce qu'on va. Puis ce coup-là, ça a marché. Fait qu'évidemment, si l'émission marche, si les gens l'écoutent, ben oui, ça va peut-être donner le goût à la télévision. Puis je parle pas juste pour moi, je parle pour d'autres auteurs, de l'horreur, du suspense, de l'épouvante. Il faut qu'on commence à faire ça au Québec. Là, on a commencé parce qu'effectivement, en ce moment, les gens écoutent ça sur Netflix, écoutent ça sur Crave, écoutent ça sur plein de plateformes, sauf au Québec. Fait que si on veut pas que nos jeunes auditeurs entre 20 et 30 ans n'écoutent que Netflix, n'écoutent que ces postes-là, ben si on veut qu'ils écoutent nos émissions, faut en faire de ce genre-là pour qu'ils écoutent aussi ce qui se fait chez nous. Fait que je pense que le message commence à passer. Mm-hmm. Et si la série marche, ben ça va être d'autant plus une preuve qu'il faut aller de ce côté-là.
Ouais, puis t'as créé un monstre aussi, là. Je veux dire, moi, j'ai lu Flo. D'abord, je veux te féliciter. Moi, je l'ai lu en une journée. Là. C'est rare que je fasse ça, mais écoute, je n'étais pas capable de décrocher. Et t'as créé un monstre parce que là, je voyais le projet de bande dessinée aussi avec ça. Là. Je me disais, mais quel roman qui serait fabuleux en bande dessinée. Est-ce que t'as aimé l'expérience? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux répéter?
J'ai bien aimé ça, mais si on le répète, puis moi et Jake, on se dit ça, Jake c'est le dessinateur, on veut pas en faire un autre absolument parce que le monde a aimé ça. Comme on s'est dit, il faudrait que ce soit un roman, que de le mettre en BD, ça amène quelque chose. Ça amène quelque chose de plus. Alice, ça marchait parce qu'Alice, c'est déjanté, c'est exagéré. C'est comme, déjà, le roman ressemble à une bande dessinée. Il y a quelque chose de visuel, de cartoon dans les personnages. Mais tu sais, mettre le vide en bande dessinée ou mettre les 7 jours en bande dessinée, je vois pas l'intérêt. Le langage BD amènerait pas grand-chose de nouveau. Mais si on trouve une idée à un moment donné, ou écrire une bande dessinée directement, là, que je pense tout à un scénario de BD, ça pourrait être le fun, mais faudrait pas que ça devienne une espèce de gimmick.
Un réflexe.
Si 3 ans, je vais pas faire comme Walt Disney puis tout refaire ses dessins animés en vrai. Là. je vais pas tomber dans ce piège commercial-là. Fait qu'on verra, on verra.
Ah, mais à ce moment-là, peut-être un projet original, pourquoi pas?
Oui, c'est ça, peut-être. Ça pourrait être le fun. Fait qu'on s'est dit, peut-être dans un an ou deux, une couple d'années, mon budget, qu'on se redonnera rendez-vous. Là, on est devenus des chums, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, il y a ces projets, j'ai les miens. On va laisser l'eau couler ses ponts. Puis à un moment donné, si ça doit se faire, ça va se faire.
Fait que Patrick, écoute, pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, il y a ton nouveau roman, Flow, que je suggère fortement. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit rapidement, ça se lit bien. La bande dessinée, Alice, toujours disponible aussi. Patrick Sénécal présente aussi sur Club Illico. Bref, il y en a pour tous les goûts.
Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup.
Hey, merci beaucoup, Patrick.
Merci à vous autres. Bye-bye.
Salut, bonne journée. Patrick Sénécal, auteur à succès, auteur de loin actuellement le plus populaire au Québec.
Ah, écoute, j'adore ce gars-là. D'abord, je l'ai rencontré plusieurs fois dans des salons du livre. On s'est téléphoné une couple de fois. Je connais très bien Jake, qui est son dessinateur pour Alice, qui est devenu un chum avec le temps parce que je fais un podcast sur la bande dessinée. Puis mm-hmm. Il est venu souvent faire des petites entrevues avec nous autres. Je l'ai vu au salon du livre. Puis bon, je porte son tatou d'ailleurs. J'ai un de mes tatous qui est dessiné par Jake.
Okay.
C'est vraiment cool. Oh, oui, j'adore ce gars-là. Puis quand ces deux bonhommes-là se sont rencontrés pour faire la bande dessinée de Alice, je savais qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait. Là. Mm-hmm. Il y avait quelque chose qu'on n'était pas habitué de voir au Québec. Ce qu'on nomme, nous, entre amateurs, là, de genre l'inquiétante absence. C'est-à-dire que le Québec ne fait très peu dans le cinéma de genre, dans la littérature de genre ou dans la bande dessinée. Ce que d'autres sociétés font, là.
On fait beaucoup dans la même affaire.
On fait dans la biographie, dans l'essai politique, dans le roman d'époque.
Oui, si on en a fait beaucoup. On est bon dans le roman d'époque.
Les situations comiques, si on en a fait beaucoup. De la comédie, on a fait beaucoup de films. Tu sais, j'écoutais La Tour avec Patrick Huard qui parlait, qui sont revenus sur, je ne sais plus combien d'années, 97, ça va faire presque 25 ans.
Oui.
25 ans des Boys. Mm-hmm. Avant les Boys au cinéma, le Québec, là.
Il n'avait pas.
C'était absent, là, des salles. Ça a été le premier film à avoir été présenté sur autant de salles. Mm-hmm. Ça a été le premier film qui a compétitionné avec ce que les Américains faisaient parce que longtemps, on a eu l'idée de, si on veut compétitionner les Américains, il ne faut pas faire comme eux autres.
Il faut être très différent.
Il faut être complètement à l'opposé d'eux autres. Ça a marché pour une bonne période de temps. Mais aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, là, hey, les studios sont ici. Les talents sont ici.
Oui, puis des effets spéciaux, ça n'a jamais coûté aussi peu cher.
Ça n'a jamais coûté aussi peu cher. Puis honnêtement, maintenant, tout ce qui manque, c'est un peu d'audace. C'est tout ce qui manque. Mm-hmm. Puis d'en parler surtout. D'en parler, puis je tiens à te remercier, Dom, parce que tu me laisses toujours toute la latitude pour en parler, tout le temps.
Ben, je trouve ça important.
Alors qu'il y a plein de monde qui me dirait, c'est pas intéressant, on n'a pas le goût de n'entendre parler, je suis pas sûr. Toi, tu as toujours été ouvert à ça, puis même si tu n'es pas un consommateur de ces produits-là, tu laisses la place pour qu'on puisse en parler, puis c'est important d'en parler. C'est comme ça qu'on génère. Tu sais, moi, à chaque fois que je reçois un commentaire ou un message de quelqu'un qui me dit, hey, je vous écoutais un matin, puis je suis allé me chercher un livre à la bibliothèque, j'avais jamais fait ça, puis j'ai accroché. C'est peut-être le seul qui va lire.
Mais tant mieux.
Mais il l'a fait.
Tant mieux.
Il l'a fait. Puis Flo, je vous le dis, si vous voulez avoir peur de vos enfants de 8 ans, c'est... non, c'est pas ça. Je te compterai hors d'onde ce qu'a fait. Ça n'a pas de bon sens.
J'imagine.
Non, ça n'a aucun bon sens.
Mais des petites filles horreurs, je trouve, c'est pas si rare.
C'est parce qu'au début, tu lis le livre, puis tu te dis, ah, OK, ça va être le personnage qui va vivre quelque chose, qui va être témoin de quelque chose.
Ah non.
Et là, plus tu avances... En tout cas, je vais vous donner un petit spoiler. Ah non, même pas.
Non.
Plus tu avances, puis là, plus tu te dis... Oh non, je suis pogné avec le diable.
Ouais.
C'est elle le problème, là.
Mm-hmm.
Ah, c'est pas doux, là.
Mm-hmm.
Ah, c'est vraiment pas doux.
9h10.
Le show du matin. On revient dans quelques minutes. 95.7 Kick Saguenay.